La fois dernière, nous étions arrêtés sur le fondement même du fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé en temps voulu les secrets de la Torah, car les secrets de la Torah, c'est la clé de la délivrance. J'explique encore une fois, je répète ce que nous avons dit, pas parce que nous ouvrons des livres secrets, mais parce que les secrets de la Torah enseignent une vision complète de la situation dans laquelle nous sommes. Peu importe quelle situation. Autrement dit, quand je suis dans un degré qui s'appelle exil, tant que je ne vois pas l'image au complet, je suis incapable de sortir de cet exil. Donc la clé de la sortie de mes exils dépend d'une nouvelle vision que je dois avoir, dois posséder par rapport à cet étouffement, à cet exil. Quelqu'un qui est dans le noir ne peut rien comprendre que lui-même et ce qui est proche de lui. C'est-à-dire que la seule existence qui existe pour quelqu'un qui se trouve dans le noir, c'est tout simplement l'existence qui touche lui-même, c'est-à-dire son propre corps et ce qu'il y a autour de lui. Mais ce qui est autour de lui véritablement, il ne le voit pas parce que le noir l'empêche de voir. Et donc il y a un oubli qui s'installe, pas par hasard que le mot noir en hébreu, chosher, c'est les mêmes lettres que shichecha, l'oubli. Ça veut dire que l'homme peut oublier en réalité l'image globale de sa vie parce qu'il est dans un élément de noir, parce qu'il est dans un élément d'angoisse. Donc Akadosh Baruch Hu, pour nous permettre de sortir de n'importe quel exil, bien entendu de la matrice de tous les exils, c'est-à-dire l'Égypte, c'est un modèle. Ne prenez pas l'Égypte comme un exil qui est passé, c'est le modèle de tous nos exils. Et la sortie d'Égypte, c'est le modèle de toutes nos délivrances. Donc, en étudiant la sortie d'Égypte, j'étudie en fait toutes mes sorties, jusqu'à la fin des temps. En comprenant le sujet de la sortie d'Égypte, je peux sortir de tous mes problèmes dans la vie. Donc c'est un élément très important, c'est une étude primordiale, maîtresse. Et si je ne comprends pas l'exil d'Égypte et comment en sortir, eh bien, tous les exils qui vont apparaître dans la vie, Chas v'shalom, je ne veux pas comprendre, parce que je n'ai pas pris un message de cette sortie, je n'ai pas pris une leçon de cet exil. C'est ce que la Torah nous dit, après la sortie d'Égypte, vous sortirez avec un gain, avec un profit. Qu'est-ce qu'on a profité? Qu'est-ce qui a profité d'un exil? Eh bien, de savoir ne plus rentrer, tomber dans un exil, et si par malheur on est encore tombé dans un exil, savoir comment sortir. En utilisant la méthode qui m'a permis de sortir d'exil la première fois, c'est-à-dire de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? En exil, en fait, nous avons terminé en disant que Moshe Rabbeinu avait la bouche lourde. C'est le phénomène qui se passe chez quelqu'un qui est dans un état de déprime. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui est en exil, a la bouche lourde, sa bouche se paralyse. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche et à s'exprimer. Donc chacun de nous, dans sa vie, lorsqu'il a eu une peine, il sait de quoi je parle. La bouche se coince, on n'arrive plus à ouvrir la bouche, et donc la parole ne sort pas d'une manière cohérente. Donc il faut faire un tipoul, il faut gérer ce degré-là pour réapprendre à parler normalement, revenir à une sérénité, à un équilibre. Un tipoul, c'est un soin. Okay? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu vas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte », Moshe lui dit à Akadosh Baruch Hu « Je ne peux pas parler, ma bouche est paralysée. » Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe dit « Ma bouche est paralysée » Ça veut dire que je n'arrive pas à exprimer en fait ce que je ressens à l'intérieur. Et quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir et à exprimer ce qu'il a à l'intérieur, en réalité il reste en exil. Donc on va aider Moshe, on va lui offrir une bouche, en attendant qu'il retrouve la sienne. Qui va être la bouche de Moshe? Son frère, Aaron. D'ailleurs, Dieu lui dit clairement dans le texte, « Vehu yihyeh lecha lepe. » C'est lui qui va être ta bouche. Donc, on va donner une bouche, en fait, qui va ne pas être celle de Moshe en attendant, jusqu'à ce que Moshe réapprenne à parler, à s'exprimer, Moshe représentant, bien entendu, tout l'ensemble d'Israël. Et donc, nos états d'âme sont des états qui étouffent notre personnalité. Et il faut, au contraire, qu'à ce moment-là, exprimer la véritable personnalité, la véritable identité qui est en nous. Donc je reprends dans le texte. Oulam be'ikveta de Meshicha. Au moment des talons du Mashiach, c'est-à-dire lorsqu'on sera très proche de l'avènement messianique. Beshah she'omedet li'itgalot lashon limudim ve'sfat ha'kodesh tashuv le'tria. Notre langage de la langue sainte, c'est-à-dire l'hébreu, va revenir comme la résurrection des morts. Donc le Rav est en train de nous dire, l'une des expressions de la Géoula complète, c'est tout simplement la renaissance du langage hébraïque. Lorsque le peuple d'Israël reparlera encore une fois l'hébreu, qu'il arrêtera de parler et d'étudier dans des langues étrangères à sa culture. Ce que nous sommes en train de faire à l'instant où je vous parle. Ça veut dire, lorsque vous serez capable d'entendre un cours en hébreu complètement, alors vous serez soigné. Tant que l'hébreu n'est pas encore faisant partie intime de votre compréhension, c'est qu'il y a encore un décalage, et donc il faut réapprendre ce langage. C'est comme si nous étions, comme Moshe, paralysés de la bouche, tant que l'hébreu n'est pas encore la langue naturelle de notre corps. Il faut que vous rêviez en hébreu, il faut que vous parliez en hébreu, il faut que l'hébreu devienne tellement profonde, faisant partie de votre intimité, de votre identité, et pas seulement au niveau individuel, mais au niveau de toute notre nation. C'est-à-dire que l'hébreu va revivre, c'est ce qui se passe depuis 63 ans, Baruch Hashem, et ça va très vite, cette langue est revenue de la mort vers la vie. Donc, c'est pas très grave. Le Lashon HaKodesh, même s'il est un tout petit peu plus différent de l'hébreu que nous parlons aujourd'hui, malgré ça, qu'un Israélien qui ouvre une Gemara ou une Mishnah ou une la Torah, il comprend beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas étudié l'hébreu. On est loin, loin, loin. Ça veut dire que c'est pas très loin le langage d'aujourd'hui du langage premier de la Torah. Donc, Vesfat HaKodesh Tashuv Letria. Donc, le langage du Saint béni soit-il va revenir à la vie, car c'est le langage de Dieu. Titbatel Kvedut Apeva Lashon. Donc, on va perdre la lourdeur de notre bouche. On va devenir plus léger. Au lieu de traduire chaque chose, on va tout simplement parler dans le code initial que la Torah a été donnée. Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah en français, ni en anglais, ni en espagnol. Il a parlé en hébreu pour créer le monde. Baruch She'amar, en Lashon HaKodesh, Yehi Or. Il n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit Yehi Or, avec ces lettres-là. Ça veut dire que les lettres de l'hébreu sont les lettres de la création du monde, avec la combinaison que je viens de dire. Yehi Or. Essayez d'arriver en... à l'heure, s'il vous plaît. Atche kol ha-machshavot ha-egioniot, ha-yoter amukim, yavou lide bitui ba-otiot, brurot ve-signon kal. Jusqu'à ce que tout soit clair dans nos pensées les plus cartésiennes, les plus profondes, qu'elles soient pensées en hébreu. Qu'elle soit pensée, pas seulement dans le langage hébraïque, mais ce langage cache en réalité le divin. Vous comprenez qu'un langage, c'est le reflet de celui qui l'a dit. Quand on parle en français, le français, la langue française, est un reflet de la nation française. À l'intérieur de ce langage, je peux décoder, je peux connaître la nation. Donc la même chose, si je parle en hébreu, l'hébreu qui est la langue du béni soit-il, du saint béni soit-il, Donc en parlant l'hébreu, c'est pas que je parle seulement dans un langage hébraïque. Je me connecte avec la nature de celui qui a inventé cette langue, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc quand vous parlez l'hébreu, même si ce n'est pas de l'étude de la Torah, vous étudiez la Torah. Seulement les lettres, la vision des lettres, nous disent les sages dans la Gemara, Otiot Markimot. En regardant les lettres hébraïques, on devient sage. Okay? Ça veut dire que d'une manière naturelle, un enfant qui parle le langage du Saint béni soit-il, c'est-à-dire la langue hébraïque, est intuitivement collé, lié à Kadosh Baruch Hu, beaucoup plus que quelqu'un qui ne parle pas cette langue. Parce que son identité est une identité qui développe le côté divin de la chose. Tout à fait, tout à fait. On peut utiliser ça après dans différentes manières, même négatives, mais au départ, on a quelque chose de très fort. On a une arme dans la bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel langage. C'est le langage avec lequel le monde fut créé. Et si moi je suis assez propre et que je réutilise ce langage, je peux à mon niveau créer des situations. C'est pour ça qu'un tzaddik décrète quelque chose en hébreu et Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette chose que le tzaddik a voulu se réalise. Tzaddik gozer v'akadosh Baruch Hu mekayem. Comment est-ce que le tzaddik est arrivé à cette force-là? D'abord parce que c'est un tzaddik. Deuxièmement, parce qu'il utilise le langage même de la création. Quel? C'est pas le même niveau. C'est pour ça que les grands tzadikim gardent le langage hébraïque pour l'étude de la Torah. Et tout le langage de la rue pour tous les autres langages. Quel? C'est pas la même force. D'accord? C'est pour ça que lorsque tu fais une tfila, il faut que tu la fasses dans la langue. C'est pour ça que ta tfila, ta amida, tu la fais en hébreu. Même si ça a une portée, les autres langages, mais pas la même portée que ce langage. Tous les autres langages sont des inventions humaines, alors que le langage hébraïque est une invention divine. C'est une création divine. Ce n'est pas des hommes qui se sont réunis pour créer une langue. Comprenez bien. Okay. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Naturellement, quelqu'un qui parle cette langue hébraïque, qu'elle se trouve collée, liée au Kodesh malgré lui. Même si tu lis quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des halakhot. Est-ce qu'on a le droit même de rentrer un journal dans les toilettes? Parce que les lettres sont en hébreu. Qu'elle? Ce sont des discussions rabbiniques. Qu'elle? L'alphabet hébraïque, c'est une invention divine, c'est une création divine. Et donc, chaque lettre a un poids. Ok, Bevadai. Bevadai. C'est ça, toute la Torah. Toute la Torah, c'est des lettres. C'est des combinaisons de lettres. Avec des combinaisons de lettres, je fais tout. La Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, les 10 paroles, sont des combinaisons de lettres.
Okay.
Ça, c'est tout le secret de la langue. C'est là tout le secret de la langue. C'est-à-dire, en disant, par exemple, oneg, en hébreu, tu vas dire une délectation, et en inversant oneg avec les mêmes lettres, nega, tu vas dire une plaie. Alors, ou délectation, ou plaie. C'est toi qui vas choisir la combinaison, en réalité, qui va tout transformer.
D'accord.
Ça se dessine. Okay. C'est un ami à moi qui a inventé une machine qui, en exprimant en hébreu le mot se reflète sur un écran. C'est-à-dire la lettre même qu'il dit se reflète sur un écran. Une image de la lettre. Extraordinaire. Okay. Ça veut dire qu'il y a ici une existence très très intime et chaque lettre, bien entendu, n'est pas une seule lettre. Puisque si vous prenez le Aleph est composé de trois lettres. Un yud, un vav et encore un yud. Ou alors un yud, un vav et un dalet. Ça dépend, on peut écrire de plusieurs manières. Donc, ça vous change complètement. Et le yud, quand je le développe encore une fois, donc chaque lettre, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Puisque le yud se dit yud, donc yud, je le dis, donc je l'ouvre, yud, vav, dalet. Comment écrire yud? Yud. Yud, vav, dalet, c'est déjà trois lettres. Et en ouvrant chacune des trois lettres, j'ai encore trois lettres pour chacune. C'est infini, c'est quelque chose de secret. Et c'est pour ça que chaque lettre a un poids, qu'on appelle sa gematria. Et c'est avec le poids des lettres qu'on peut mesurer, en fait, certaines valeurs de cette lettre. Tout ça, c'est une sagesse divine qui a été donnée. C'est ça, l'étude de la Torah. C'est l'étude des lettres. Donc, quand vous faites un ulpan, vous étudiez la Torah.
Mais Hachem, il n'a pas donné l'alphabet.
Il a pas donné l'alphabet 1, 2, 3, 4, 5. Il a donné...
Alors, comment c'est
vrai? Parce que c'est pas une question de déduire. Le langage avec lequel Akadosh Baruch Hu s'est exprimé, quand tu auras des enfants, tu crois que tu vas leur apprendre l'alphabet, tu vas commencer à leur parler avant de leur apprendre l'alphabet. Donc ils auront déjà 10 ans, et quand il aura 10 ans, tu vas commencer à lui faire la liste. Mais il sait déjà parler. On est d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu nous a parlé avant de nous enseigner 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, le premier langage de Dieu avec nous, c'est un langage hébraïque. Après, tu nous apprends l'ordre des lettres et comment elles se décomposent, comment elles se composent. Et celui qui connaît le secret des lettres peut créer des choses. Comme Betzalel, qui était à l'ombre de Dieu, Betzalel, tout en hébreu, c'est codifié. Donc, Yada Betzalel, Aya Yodea, Letzaref, Otiot, Shenivraou, Baem, Shamaim, Baaritz. Betzalel savait combiner les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc, Betzalel a créé un petit monde, ça s'appelle le Mishkan. C'est un monde en miniature. D'accord? Alors, revenons à notre degré. Lorsque l'homme d'Israël est en exil, son langage est en exil. Donc, il parle d'autres langues. C'est étranger à lui. Comment on dit un langage étranger en hébreu? Lo'azi. Nachon, lashon la'az. Vous avez déjà entendu? Nachon, lashon avodazara. Ça veut dire que c'est un langage étranger au culte d'Akadosh Baruch Hu. Atche kol amachshavot. Donc lorsqu'on réintégrera les lettres, les mots, le secret du langage de Dieu, eh bien, on va être complètement besignon kal, tout va devenir beaucoup plus léger. C'est lourd de devoir traduire des mots pour se casser les dents sans arrêt pour essayer de traduire dans un autre langage. Parce que si je traduis tout ce que je suis en train de dire maintenant en français ou dans une autre langue, peu importe, je trahis. Je trahis le langage hébraïque. Traduire, c'est trahir. Automatiquement, parce que je donne déjà une certaine direction, alors que l'hébreu est tellement riche que je ne peux pas traduire Bereshit bara Elohim par le commencement. Okay? Parce que Bereshit ne veut pas dire commencement. Commencement en hébreu, c'est Barishona. Alors, vous voyez que tout est erroné. Et c'est très difficile d'étudier la Torah dans un autre langage que le langage initial. Alors, Bereshit, c'est déjà un nom qui doit s'associer à quelque chose. C'est-à-dire, si tu parlais l'hébreu, tu aurais pu comprendre qu'il y a un kesher entre le taf et le mot qui vient après. Par exemple, Bereshit Habria. Ça, j'aurais pu le dire. Il y a une smichut. Mais Bereshit Bara, ça ne veut rien dire, ce n'est pas de l'hébreu. On ne peut pas parler comme ça. Autrement dit, je suis obligé de conclure, si je connais l'hébreu, que Bereshit, c'est le nom de quelqu'un. Et c'est le nom de qui? Nous dit Rashi tout de suite. C'est Israël qui s'appelle Reshit. Ou la Torah qui s'appelle Reshit. Et là, tu développes, tu comprends complètement différemment la Torah. Pour le Reshit. Ou à l'intérieur du temps Reshit, B, qui introduit une notion de temps. Vous comprenez, c'est très complexe. Ce n'est pas des traductions simples. Et une fois que tu as compris ce secret-là, c'est en réalité ça la sortie d'exil, eh bien tu dois les farsemam berabim, tu dois les diffuser, les publier, les farsem. C'est-à-dire, comme le pirsum hanes, là nous avons un pirsum du langage. Autrement dit, il faut faire passer ce message que je suis en train de vous dire. Une feuille. Et donc, il faut ouvrir la bouche dans notre langage, le vrai. Mais lorsque tu sais être précis dans ton langage, tu commences à devenir un sage. L'une des choses que j'apprends de mes maîtres, okay, et je suis encore un jeune élève, c'est la précision des mots. Chaque mot est précis. On ne peut pas dire quelque chose pour dire autre chose. Il faut que les mots soient précis. Et il faut que tu fasses très attention aux mots que tu dis. Et en hébreu, c'est extraordinaire parce que chaque mot, il a un degré. Et c'est pour ça qu'on s'arrête à des petits détails dans les mots. Pourquoi il a dit comme ça et pas comme ça? Et si le rav voulait dire, vous savez, comme un roman, c'est pas ça la Torah. C'est pas comme ça qu'on peut étudier la Torah. Tu peux pas prendre une Gemara et la citer complètement à l'envers, comme malheureusement dans beaucoup de chiourines. On prend une Gemara, on ne cite pas les vrais mots de la Gemara et on tire des conclusions. Tu ne peux pas faire ça. Si les sages ont choisi parmi des milliers de mots ces mots-là, c'est qu'ils avaient une raison précise. Et donc tu dois respecter ces mots précis, ces lettres précises, et c'est avec ces lettres-là que tu dois comprendre le message que les sages voulaient passer. Et ça, c'est les sages. Et la Torah, encore plus. Si la Torah n'a pas mis un vav ici et a mis un yud ici, ou alors un mot manquant, c'est pas par hasard. La Torah est très radine au niveau des mots. Elle ne met pas des mots n'importe quoi. C'est pas pour faire beau. On n'est pas là pour faire de la tapisserie. Chaque mot de la Torah est très précis. Il est mesuré. Et il a un poids. Et il a une mesure. Et donc, si tu ne sais pas faire ces mesures, tu fais n'importe quoi. Donc, la première étude de ce que c'est l'exil de la parole. Quelqu'un qui ne connaît pas le langage hébraïque se trouve en exil. Et lorsqu'il réapprend ce langage, il sort de l'exil en Géoula. C'est ça la Géoula, c'est Géoulat HaDibour. C'est la rédemption de la parole hébraïque. Une fois que tu comprends ce secret-là, eh bien tu comprends tous les secrets. Parce que les lettres elles-mêmes sont des secrets, elles te révèlent des secrets. Et donc lorsque tu rentres dans le secret des mots, tu rentres dans l'enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un trésor. Comment on dit un mot en hébreu? Mila ou Teva. Qu'est-ce que c'est Teva? L'arche. Tevat Noach, l'arche de Noé. Alors qu'est-ce que c'est rentrer dans la Teva? Rentrer dans les mots. Comprenez? Ça veut dire comment on peut être sauvé du déluge? Qu'est-ce que Noach fait pour être sauvé du déluge? Il rentre dans les mots. Ça veut dire rentrer dans le secret des mots, et c'est ça ton arche de Noé qui va te sauver de toute la destruction. Rentrer dans le secret, c'est-à-dire étudier la Torah dans son sens profond. Rentrer dans le secret du mot, c'est comme si tu rentrais dans l'arche. Tout à fait, le sod de la lettre, le sod du mot. Ça veut dire que quand je te dis quelque chose en hébreu, eh bien, tu dois rentrer dans le secret des lettres qui composent le mot que je t'ai dit, et tu vas comprendre qu'à l'intérieur de ce mot se trouve, en réalité, toute ta délivrance. C'est exactement ce qu'on fait pendant l'étude. Tu n'as jamais vu des Talmidei Chachamim pendant une heure et demie discutent pourquoi le Rav a dit comme ça et pas comme ça. Et justement, plus tu grandis au niveau, moins tu as de conversations futiles. Et plus tes mots sont mesurés. Ça veut dire que les mots futiles, entre guillemets, lorsque Moshe Rabbeinu buvait le café avec son voisin, c'était déjà des secrets. C'est ce que nous disent nos sages. Les blagues des Chachamim, pour nous, c'est déjà de l'étude. Quand tu entends deux grands rabbanim blaguer entre eux, il y a des secrets qui se cachent à l'intérieur de leurs blagues. Alors que nous, quand on raconte des blagues, c'est pour raconter une blague. Okay? Chacun son niveau. Donc, Razei Torah, donc les secrets de la Torah, Raz, quelle est la valeur numérique par exemple du mot Raz? 207. Resh Zain. C'est la même valeur numérique que la lumière, Or. C'est-à-dire le secret et la lumière, c'est pareil. Donc, pour rentrer dans le secret, il faut rentrer dans la lumière, donc sortir du noir. Celui qui se trouve encore dans le noir, il est mort. Quelle est la plaie dernière, les dernières plaies d'Égypte? Les trois dernières plaies qu'on vient de lire ce Shabbat, c'est quoi? Arbé, Choshech et Bechorot. Vous voyez un point commun entre ces trois plaies? Elles sont toutes dans le noir. Arbé a marqué que la terre était tellement remplie de sauterelles qu'il faisait nuit, on ne voyait plus rien. L'œil de la terre était caché. La plaie qui venait après, c'est la plaie des ténèbres. Là, c'est sûr, il y a marqué. Et la plaie des premiers-nés qui était au milieu de la nuit. Donc, noir. Donc, il y a un point commun entre les trois dernières plaies, le noir. Alors, je vous pose une question très simple. On va vers le noir ou on va vers la sortie d'Égypte qui est la délivrance? On va vers la sortie d'Égypte. Alors, comment ça se fait qu'en allant vers la sortie d'Égypte, on se retrouve avec du noir et du noir et du noir? C'est pas seulement pour les Égyptiens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là-dedans. 80% sont morts dans ce noir. Seulement celui qui a gardé le nom de Ben Israël, il voyait la lumière. Mais 80% n'ont rien vu, ils sont morts là-dedans. Et Rashi ramène là-bas que les Rechaïm sont morts là-dedans, ceux qui ne voulaient pas sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vers la Géoula, il est possible qu'on voit paradoxalement du noir, alors qu'on va vers la lumière. Vous comprenez? Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le désespoir. Tu te dis, mais attends, on m'a tous dit qu'on allait vers la Géoula, que le Mashiach est très proche. Et pourtant, je vois de la panique partout. Alors, qu'est-ce que tu dois apprendre? Oui, mais en Égypte, c'était pareil. Et pourtant, on allait vers la Géoula. Ne te fie pas aux apparences. Et si tu tombes dans ce degré de noir, je traduis avec des mots d'aujourd'hui, dans cette déprime, dans cette dépression, tu ne comprends pas les messages, mais chas v'shalom, tu vas du noir dans un autre noir, et dans un autre noir, tu broies du noir. Alors que nous, on doit revenir vers la lumière. Ou les chol b'nei Israël, haya or. Seulement ceux qui ont gardé leur identité, qui s'appelaient b'nei Israël, eux, avaient la lumière. Donc, le secret. Même valeur numérique. Donc, il faut s'organiser. Organisation. C'est quand tu mets de la lumière dans ta vie que tout s'organise. Vous avez compris? Organiser vient de l'hébreu. C'est mettre de la lumière dans ta panique. Va Geoula titzmiar keren Yeshua. Et là, on rentre dans la Geoula qui va faire pousser en réalité keren. Qu'est-ce que c'est keren? Un rayon de Yeshua. Qu'est-ce que c'est Yeshua? La délivrance. Alors, qu'est-ce que c'est Geoula? Dévoilement. Alors, deux fois, Geoula, Yeshua. Ça lui chante comme ça, un coup il met Geoula, un coup Yeshua.
Geoula, c'est la sortie. Yeshua, c'est...
Où c'est marqué ça? Utilisez des prières que vous connaissez. La Yeshua, elle appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. Non? Non, c'est à lui. C'est-à-dire, c'est lui qui doit sortir de son exil. Non? La Geoula, c'est à nous. D'ailleurs, quand on prie, on dit Li Yeshuatra Kivinu Vetsipinu Kolayom. C'est-à-dire, dans la Hamida que vous faites, regardez combien ça nous manque, le langage hébraïque. Ça veut dire qu'on comprend même pas ce qu'on dit depuis qu'on est né. Kilishuatra, kivinu, vetsipinu, kolayon. Vous le dites dans la Hamida? Vous le dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction littérale. On attend Kadosh Baruch Hu, ta délivrance. Et sa délivrance à lui, elle s'appelle Yeshua. Mais quand je veux que Dieu me sauve à moi, qu'est-ce que je lui dis? Goalenu Hashem, venigael. Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël. Nachon. Nachon. Non. Non. C'est pour lui. Tout le Kaddish, il est pour lui. Itgadal ve Itkadash. Ça, c'est après. Une fois que lui va être délivré, si Dieu est délivré de son exil, nous, automatiquement, on va être délivré. Mais tout le Kaddish, c'est une prière pour qui? Pour que son nom se dévoile. Pour que son nom grandisse. Écoute ce que tu dis. Itgadal ve Itkadash, Shemé, Rabba. Ce n'est pas une prière pour les morts. c'est une prière pour agrandir le nom de Dieu. Ça veut dire que tant que le nom de Dieu est petit, donc Dieu est en exil, eh bien nous on est exilés aussi. Regardez jusqu'où on va maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, qui est en exil? Dieu. Et il faut sortir de son exil. Comment s'appelle sa délivrance? Yeshua. Et s'il y a une Yeshua, alors nous, nous avons une Geoula. Vous avez compris? Ça veut dire que le premier à sortir d'exil, c'est lui-même. Et une fois que lui est sorti de son exil, vous allez me dire, mais comment il est en exil? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en exil? Posez-moi la question. Que ça veut dire qu'il est en exil? Alors pourquoi pourquoi on prie? En quoi il est exilé? Pourquoi on dit, on attend ta délivrance à Kadosh Baruch Hu, ta délivrance à toi, l'Ishua Tra? Il est fait, Mehot. Ça veut dire que l'exil de Dieu passe par notre exil à nous. Mais c'est Dieu qui est en prison. Autrement dit, quand tu as fait ton alia, qu'est-ce que tu as fait? Tu as libéré Dieu. Une parcelle de Dieu. Nahon. Ça veut dire quand les enfants d'Israël rentrent de leur exil et reviennent sur leur terre, qu'est-ce qu'ils libèrent en réalité? Le divin. Et lorsque le peuple d'Israël se retrouvera dans sa majorité ici, eh bien Dieu est sorti de sa prison. Ça, c'est encore une étape. C'est pas seulement le Beth Amikdash. Il y a des étapes. Ah, il y a fait mode. Il y a une Yeshua d'abord et après il y a une Geoula. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de te dire, c'est marqué dans le verset. Veshav Hashem et Shevutra. Ça veut dire Dieu va sortir grâce à ta sortie. Donc quand tu sors, tu libères Dieu. Donc on ne sait pas exactement qui est avant qui. Vous comprenez? C'était juste un petit exercice pour vous faire comprendre qu'on dit des mots sans comprendre. Yeshua, Geoula. Il faut faire attention. Et dans tous ces degrés-là, il y a des secrets, bien entendu. Je ne suis pas rentré là, j'ai rien fait. On est juste en train de caresser les mots. On n'a même pas rentré dedans. Okay? Donc dans tout le mot Gaal et dans tout le mot Yesha, trois lettres de racines, Yud Shin Ain pour Yeshua, Gimel Alef Lamet pour Geoula. Si vous savez rentrer, pénétrer à l'intérieur de ces trois lettres ici et de ces trois lettres ici, vous comprenez tout le secret de l'exil. Car dans le dévoilement, dans le mot Geoula, il y a le mot dévoilé, Gal. Gal veut dire en hébreu dévoilé. Gal Aleph, dévoiler l'unité. Geoula, Goel, c'est les lettres de Gal Aleph, dévoiler l'unité. Ce n'est pas par hasard que Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé de quitter ce monde à Lag Baomer. Lag, c'est Gal codifié. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé ce qui se passe à ce moment-là. Et son histoire se trouve à la page Lag, dans la Gemara, 33, de Shabbat. Parce que lui-même est un degré de Shabbat au niveau des hommes. Comprenez, tout est codé. C'est comme ça que vous pouvez aussi retenir une page de la Gemara. C'est pas des robots. Sinon, jamais vous allez retenir quoi que ce soit. Parce que vous étudiez comme un perroquet qui répète des choses. Mais si vous comprenez, vous assimilez ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez des moyens mémotechniques pour vous rappeler exactement où c'est marqué. Parce que ça fait partie du thème que vous développez. Donc vous savez relier les choses. On passe à la partie du milieu. Keshem Shegalui, Shemoit Barach, Gilui, Shemoit Barach, Yebe Ikar Leatid. Nous savons que l'essentiel du dévoilement du nom d'Hachem, du nom, écoutez bien, ça veut dire que le nom d'Hachem, on est en train de parler de notre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va se dévoiler, que son nom va se dévoiler? Ah, il y a fait, mais de quel nom nous parlons? Qu'est-ce que c'est son Shem? Et qui c'est lui alors? Vous comprenez? Là, on fait une différence entre lui et son nom. Pas pareil. Par exemple, quand vous dites Chiloul Hashem, comment vous écrivez Hashem? Et pourquoi pas Hé avec un petit truc? Ils comprennent aussi, mais c'est faux. Vous aviez raison. C'est He Shin Mem. Parce qu'on ne peut pas profaner Dieu, mais on peut profaner son nom. Vous voyez les différenciations? C'est des nuances très, très importantes. Profaner Dieu, ça n'existe pas. Profaner le nom de Dieu, ça existe. Donc, qu'est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Son dévoilement, son identité, mais lorsqu'il s'exprime aux autres. Enfin, moi, je n'ai pas besoin, par exemple, de mon prénom. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quelqu'un qui veut m'appeler, il l'utilise. Mais si je me réveille tous les matins et je me mets en face du miroir et je me dis, Yoël, là, ça ne va pas aujourd'hui, il faut que tu fasses... Je suis un petit peu... Il faut m'enfermer. Moi, je n'ai pas besoin de mon prénom. Mais vous, vous avez besoin parce que vous m'appelez. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, en réalité, n'a pas besoin de son prénom. Donc c'est un moyen pour nous, pour le contacter. Vous comprenez? Donc si je connais son nom, les quatre lettres de son nom, le tétragramme, qui est le nom principal, je peux toucher quelque chose de ce qu'il veut me dire. Je rentre en contact avec lui. Et si je ne connais pas le secret des noms, le secret des lettres, oui, bien sûr, c'est lui qui nous donne son nom pour qu'on puisse faire le pas de revenir vers lui. Nachon. D'ailleurs, un enfant qui commence à lire, je pense que vous-même aussi, la première fois que vous avez vu ce nom, vous aviez eu envie de dire « Yeh-oh ». Hein? Pourquoi vous, on vous dit « Non, oh !» Le pauvre, le bébé, il ne comprend pas. Okay? Alors, on voit un nom et on dit un autre. On dit « Adam hein? », alors qu'on voit « Yud-ke, Vav-ke ». Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Encore une fois, d'abord il est ponctué de 10 ponctuations différentes qui correspondent aux 10 sphères. Mais c'est encore un autre sujet, c'est déjà de la Kabbalah. Oui? Il est 10 ponctuations différentes. Okay. Le nom il sert à faire le lien avec, donc ça veut dire à s'occuper de la partie avec laquelle je suis en train de... Par exemple, quelqu'un qui me donne du bien, comment je vais l'appeler? Le bon. Celui qui est bon avec moi. D'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose. Dieu, avec ces quatre lettres-là, il fait vivre le monde. Exactement. Sur le monde, sur la vie. D'ailleurs, on dit faire vivre quelqu'un, comment on dit? Les havot. Les havot. Havaya. Havaya, c'est l'existence. On est d'accord? Havaya. L'ihiot. Être. Donc, c'est tout ça, c'est le nom de Yudke Vavke. Ça s'appelle Shem Havaya. Le nom de l'existence. Le nom de l'être.
On n'est pas assez méritant pour prononcer encore l'autre.
Tout à fait. Il n'est pas encore dévoilé dans notre monde, mais à la fin des temps, on va le prononcer tel qu'on le voit. Ça veut dire qu'il y a encore un décalage. Bien compris. Donc, à la fin des temps, on va commencer à comprendre, à nous relier au l'être. Venigla kevod Hashem veraou kol basar yachtav ki pi Hashem diber. Et toute chair verra. Écoutez bien, toute chair verra. On ne peut pas dire toute personne. Pourquoi toute chair? Même notre chair, qui est la partie la plus basse, va comprendre des secrets qui sont très élevés. Vous comprenez maintenant les détails? Chaque mot est important. Qui pi Hachem diber. On va comprendre quoi? Que c'est la bouche d'Hachem qui a parlé. Autrement dit, c'est le langage du divin qui est en train de parler. Comment est-ce qu'on va voir ça? Eh bien, en regardant notre pays se développer. Quand je vois mon pays se développer, je regarde à travers les fenêtres, je me dis, Akadosh Baruch Hu a parlé. Tout ce qu'il a dit, il est en train de le réaliser. Ce sont des prophéties, là. Tout ça, c'est une prophétie. Vous croyez que c'est une ville? C'est une prophétie, ce n'est pas une ville. Elle est en forme de ville aujourd'hui, mais c'est une prophétie qui est marquée dans la Torah. Je reviendrai, je construirai Jérusalem. Voilà, ça se réalise. Donc c'est une parole divine qui est en train de se réaliser. Ça veut dire qu'on va comprendre de plus en plus comment Dieu parle, même si on n'entend pas des mots. Parler, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. C'est être, faire, vivre. Si je veux éduquer mes enfants, j'ai besoin de faire des réunions de famille à chaque instant. À partir d'aujourd'hui, okay, on est tous 1, 2, 3, toi tu te lèves à 8 heures, toi tu... c'est pas ça. Les enfants doivent me voir être. Voilà la vraie éducation. Il me voit à quelle heure je me lève le matin. Il me voit faire ma tefila. Il me voit aller au mikvé. Je dis rien. Rien. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. C'est ce que je fais avec mes enfants. Je ne dis rien. Ni pourquoi tu n'es pas venu à la tefila, ni est-ce que tu es venu, et rien du tout. Rien. Moi, je vais. Et lorsqu'ils grandiront, ils se rappelleront que papa se levait à telle heure le matin, allait à telle heure à la tefila, étudier la Torah. C'est un exemple vivant. Pas besoin de dire. Ken gam erkam shel Israël itgale rak le'atid. De la même manière que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à la fin des temps, eh bien la valeur d'Israël, en même temps, puisque notre Géoula et la sienne sont liées, vous l'avez compris tout à l'heure, nous aussi nous allons grandir et les gens, les nations du monde vont découvrir qui est Israël véritable. Mais seulement ça va se faire rien qu'à la fin des temps. Pour l'instant, on intéresse tout le monde. On parle que de nous dans les informations dans le monde entier. Mais ils ne comprennent pas encore de quelle matière nous sommes fabriqués. On interpelle. Tout simplement en étant là. De plus en plus de juifs ici, et de plus en plus de sérénité, de contrôle de soi, d'équilibre. Pas des fous, des gens équilibrés, comme vous êtes en train de vous développer ici, Baruch Hashem, et vous allez devenir des hommes qui savent lier le Kodesh et le Chol, avoir un métier, être des ingénieurs, être des bons soldats, être de bons pères de famille, avoir un travail équilibré, et en même temps, faire tout ça pour le Kodesh, pour dévoiler le nom de Dieu d'une manière cohérente, claire, pure, propre, avec un langage qui soit adéquat, avec une mesure de morale dans le monde. Lorsque les nations du monde verront un peuple moral, ils comprendront qu'il y a quelque chose de différent qui se passe ici. C'est un peuple qui sans arrêt s'interpelle, se juge lui-même, regarde s'il n'a pas fait des fautes. Comme à l'armée. Chaque fois qu'on fait un petit truc, on est en train de fouiller à l'intérieur de nous-mêmes si nous sommes véritablement moraux. Ça veut dire qu'on est en train de faire un véritable travail. Et toutes les choses négatives qui se montent à la surface, alors vous pouvez le voir comme des choses négatives. Ou alors, qu'on s'occupe des vrais problèmes, donc on sort tout ce qui est mauvais. Ça aussi, c'est possible de voir. Donc n'allez pas seulement dans la partie négative, regardez tout ce qui se passe, celui-là il a violé un tel, l'autre il a fait ci. Au contraire, on ne laisse rien du tout sous le tapis. On fait tout sortir. Ça veut dire que tout devient de plus en plus transparent. Donc on va vers la bonification de nous-mêmes, de notre civilisation, de notre culture, de notre société. Donc nous avons été éteints pendant 2000 ans, pendant tout l'exil. Okay? Tout était caché. Mais comme shekol gadol, comme sechel gadol chita vetzemach, ba rak achrei ha'ele mazria bebeten ha'adama. Il dit, ben, donne l'exemple au Rav ici d'un grain de blé. Pour qu'il devienne une germe de blé, il faut d'abord la mettre dans la terre. Donc la première partie, c'est disparition dans le ventre de la terre. Celui qui n'a pas de patience, qu'est-ce qu'il se dit? Le grain de blé a disparu. Tu m'as pris pour un idiot. J'ai acheté plein de grains de blé, j'ai payé très cher, je les ai jetés par terre, il a plu, on voit plus rien. Tout a disparu. J'ai perdu mon fric, rends-moi mon argent. Et celui qui est intelligent, il lui dit, c'est un processus, attends. Arrose, mets de la lumière, et tu verras un champ de blé qui va pousser dans quelques temps. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça dans la nature? C'est la même chose. Et celui qui n'a pas de patience et qui veut fouiller dans la terre, c'est véritablement un grain de blé, même le grain de blé qu'il a semé, qu'est-ce qui se passe? Il se décompose au premier degré, avant de se recomposer. Donc la personne qui n'a pas de patience et qui n'a pas une vision des choses, c'est toujours dans la déprime, toujours dans la mélancolie, toujours dans la tristesse, toujours dans le mal, dans le négatif. Attends. Il y a des périodes dans la vie où les choses se dégradent pour repousser. Et même si tu as passé quelque chose de dur dans ta vie, tu as l'impression que maintenant tout se dégrade, c'est pour repousser. Mais toi, tu dois faire une seule chose. Pense à repousser. Arrête de penser à ce qui s'est passé. Stop! Maintenant, on avance. Si tu n'as pas la capacité de faire ça, tu vas rester toujours coincé dans le passé. Je vous ai déjà dit comment ça s'appelle en hébreu, être coincé dans le passé. Comment on dit le passé en hébreu? Avar. Donc celui qui est coincé dans le passé, il s'appelle Avarian. Qu'est-ce qu'un Avarian en hébreu? Un fauteur. Donc être fauteur en hébreu, c'est rester coincé dans le passé. Et celui qui veut réussir sa vie doit voir en avant. Veyesh l'école d'Avarzman Katsuv. Et chaque chose dans ce monde, elle a un temps bien précis qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Une femme affolée cette semaine, toute la semaine dernière, je reçois des centaines de SMS et des machins et des mails. Ma fille est à l'hôpital, est-ce qu'on doit vite lui faire le truc pour faire sortir le bébé? On n'en peut plus, tatati, tatata. Je lui ai répondu exactement ça. Je lui ai dit, chaque chose a un temps. Kadosh Baruch Hu connaît le temps de cette neshama, laissez-la sortir tranquillement. Bon, Hashem, elle est née tranquillement. Pourquoi tu veux accélérer les processus? Si tu veux accélérer certains processus, tu fais n'importe quoi. Des savants, aujourd'hui, ont voulu accélérer le processus de développement d'un papillon. À la place d'un papillon, ils sont sortis des monstres. Le papillon, ça lui prend du temps pour grandir, pour se développer. Ça, c'est un cocon qui se décompose, qui se recompose, qui se décompose, qui se recompose. Tu veux accélérer? Ça ne marche pas. Tout ce que vous voulez accélérer dans votre vie, ça s'appelle une route courte, mais très longue. Vous croyez que c'est court au départ. Vous voulez faire des raccourcis. Vous savez comment on dit un raccourci en français? Un court-circuit. Et vous savez ce que c'est un court-circuit? Quand vous brûlez. Un circuit trop court. Alors écoutez ce que les sages qui ont de l'expérience, qui ont la chokhma de la Torah vous disent. Mais si vous ne faites qu'à votre tête, mais vous tournez en rond, vous croyez vous gagner du temps, mais vous ne gagnez rien du tout, vous perdez du temps. Donc chaque chose a un temps. Il y a un temps qui est caché de la même chose. Laisse-la se développer dans le ventre. Un bébé, avant de sortir ici, il est 9 mois dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Pourquoi faire? On ouvre le ventre, on le sort et c'est tout. Non, il y a un temps où les choses doivent être cachées. Ken gam advarim haddakim haruchanim. Ainsi dit le Rav, les choses spirituelles qui sont très fines. Il faut leur donner le temps. Lifnei kol gilui yeshno he'alem. Avant chaque dévoilement, il y a une disparition. Donc, avant la grande lumière de la Geoula, il y avait 3 plaies de noir. Comprenez maintenant pourquoi il y a cet ordre dans le monde. Et chaque fois que tu vas grandir, alors apparemment avant tu auras un petit problème qui va soi-disant t'éteindre. Mais en réalité, il faut que tu fasses attention. Voilà, tu es en train d'écouter un cours maintenant. C'est pas que tu es en train de tomber. C'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait passer par un degré. C'est une mini-extinction pour grandir. Vous-même, quand vous voulez sauter, vous avez fait du basket? Du saut en longueur? Du saut en hauteur? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez sauter? Et qu'est-ce que vous faites quand vous prenez l'élan? Non seulement vous reculez, mais vous descendez. Alors, je ne comprends pas, tu veux monter ou tu veux descendre? Le type qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'il te dit? Maintenant, tu veux sauter, alors pourquoi tu te baisses? Pourquoi tu te plies? Ah, je me plie parce que je veux prendre l'élan pour me déplier. Ah, c'est ça le secret du monde. Eh oui. Et si tu ne sais pas ça, et tu veux sauter tout droit comme un robot, tu fais 2 mm de haut. Tu ne peux pas sauter. Vous comprenez le secret? Et pour respirer, qu'est-ce que vous devez faire? Expirer. C'est bizarre, non? J'ai envie de respirer. C'est fini, je vais mourir, non? Pourquoi j'ai besoin d'expirer pour respirer? C'est pas logique. Je vais écouter quelque chose. J'ai un son qui rentre dans l'oreille. Pourquoi au bout de l'oreille, à l'intérieur, j'ai un tympan qui dit au son, stop. Je n'ai pas habitué, j'ai pas besoin. Je prends un coton-tige, je fais un trou et tous les sons rentrent. Il n'y a rien du tout qui rentre. Justement parce qu'il y a un tympan qui dit non, stop, je reçois le son qui va rentrer. Regardez le secret de Dieu dans ce monde. Tout a besoin d'un écran pour se dévoiler. Vous voulez projeter un film. Si vous n'avez pas d'écran, le film... il va se projeter où? Nulle part. Vous comprenez le paradoxe de cette vie? Donc à chaque fois que vous croyez que vous êtes en train de tomber, c'est en réalité comme si vous êtes en train de vous plier pour sauter plus haut. Donc ne vous angoissez pas, au contraire, soyez heureux. Et plus ton dévoilement va être grand, plus la partie d'avant, elle est extinction totale des lumières. L'angoisse. En Israël, il y avait des stores un peu spéciaux, un système israélien. Vous connaissez les stores israéliens? Quand vous voulez ouvrir tous les stores, vous devez fermer tous les petits. Vous connaissez ce système? Vous avez des petits stores comme ça, qui se déplient avec des petits machins. Et quand vous voulez ouvrir la grande fenêtre, il faut fermer tous les stores. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas ce secret. Il dit, est-ce que tu peux m'ouvrir la grande fenêtre? J'ai besoin de respirer. Il dit, 5 secondes. Il commence à fermer tous les stores. Et à un moment donné, dans la chambre, il fait nuit totale. Et le mec, il dit, mais attends, je t'ai demandé d'ouvrir, pourquoi tu me mets dans le noir? Mais attends, c'est le passage obligatoire. Maintenant, je vais pousser tout le tris et la lumière va rentrer. Vous comprenez comment ça se passe dans notre vie? Alors maintenant, la parabole. Tout ce que je viens de vous dire, les stores, les machins, les écrans, tout ça, on va le traduire avec un autre mot. Nos angoisses. Nos chutes. Nos défaites. Chacun a fait quelque chose, ça a cassé la figure. Je me suis marié, j'ai divorcé. Oh, quelle catastrophe. La fin du monde. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une grande lumière qui doit venir après. Avance. Arrête de rester dans ce passé. Tout ce qui tu as perturbé, tout ce qui t'a fait chuter, tu découvres après que Baruch Hashem, ta nouvelle vie est 10 fois plus grande, 100 fois plus grande que ce que tu aurais eu à voir après, avec ça. Vehem atzmam poalim, donc ta propre chute, c'est ce qui va t'aider et ta godel atzmicha à pousser encore plus haut. Utilise ta chute pour grandir. Et tout ce qu'on te demande, c'est tout simplement de dévoiler ce qui est en toi. Alors on t'a rentré dans un petit système qui t'a enfermé à un moment donné dans ta vie. Mais ce n'est pas pour t'enfermer, ce n'est pas pour te faire du mal. Il n'y a pas de dieu punisseur, on n'est pas chez les dieux pères fouettards qui te frappent. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Kadosh Baruch Hu veut que notre bien. Mais il nous donne le temps de nous développer dans chaque chose. Et avant une grande lumière, il y a un moment de noir qui est tout à fait normal parce qu'il prépare la grande lumière. Donc avant la Géoula, il y a des moments de difficulté. Et ceux qui savent ce secret ne dépriment pas, au contraire. Ils restent dans le processus et ils disent à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Toda Rabba.